Bonjour à tous. J'aimerais dire avant de commencer que l'introduction de mon message n'est pas simplement une introduction pour introduire le message, mais c'est vraiment des choses que je vis. Et vous pourrez me demander à Marie-Ange. Des choses que je lui ai déjà parlé. Mais je l'ai utilisé donc pour introduire ce message. La lecture se fera dans la lettre aux Galates. On va poursuivre l'étude de cette lettre que l'apôtre a écrite il y a 2000 ans et qui est tellement actuelle aujourd'hui. Une des choses donc que je me dis, c'est qu'au jour du jugement dernier, moi, Jean-Pierre, je vais comparaître devant le tribunal de Christ. Et ce qui me travaille et qui me donne une certaine crainte, ce n'est pas les péchés que j'ai pu commettre en tant que chrétien, parce que je sais que lorsque je me repens, que je demande pardon, je suis pardonné, je suis purifié. Et je sais aussi que j'ai un avocat auprès du Père, et je n'ai aucune crainte là-dessus. Mais par contre, ce qui me fait peur, c'est le moment où le Seigneur me demandera pourquoi je n'ai pas fait le bien que j'étais en mesure de faire. Parce que quand nous avons l'occasion de faire le bien et que nous ne pouvons pas, bien sûr, on peut se repentir, on peut recevoir le pardon de ses fautes, mais l'occasion de faire le bien est quand même passée et le bien que j'aurais pu faire, je ne peux plus le faire. Une fois, vous savez que j'ai fait les marchés pendant longtemps et le camelot à côté de moi, avec qui on était devenus amis, son père est décédé. Donc je ne connaissais pas et j'ai appris ça, je sais plus, le matin même, je ne sais plus comment ça s'est passé. Et le matin, c'était le matin d'aller au marché, je me posais la question, est-ce que je dois aller au marché, est-ce que je dois aller à l'enterrement de son père, même si je ne connais pas la famille. Et Marie-Ange m'a dit, va à l'enterrement, parce que tu sais, une fois qu'il sera passé, il sera trop tard, tu ne pourras pas revenir en arrière. Et je suis allé à l'enterrement, et je peux vous dire que le camelot et sa femme, tout ça, étaient vraiment contents de voir que j'étais présent. Et si je n'avais pas été à l'enterrement, j'aurais pu lui dire quelques mots au marché après, j'aurais peut-être pu lui dire j'aurais dû y aller demander pardon, mais l'enterrement était fini. Et vous voyez cette remarque de Marie-Ange, hein, on est tant à cause de ça, mais ça m'a marqué. Et en plus, je me dis que pour le bien que je n'aurais pas fait, toutes les bonnes excuses que j'aurais trouvées ici-bas pour ne pas les faire ne tiendront pas beaucoup quand je passerai devant celui pour qui tout est nu et découvert, devant celui qui connaît Jean-Pierre mieux que lui-même. Bien sûr, je crois en la grâce inconditionnelle de Dieu, je crois en son plein pardon, mais je crois aussi qu'en tant que disciple, je suis appelé à marcher dans l'obéissance. Jésus est celui qui a tout accompli à la croix pour mon salut et je le crois fermement, je n'ai pas de doute là-dessus. Mais Jésus n'est pas que mon sauveur, il est aussi mon modèle. Il est celui qui m'enseigne par ses paroles et par sa vie. Lui, il avait toujours du temps pour l'autre. Quand on le voit partir des fois dans un endroit pour faire quelque chose de précis, il est arrêté en chemin, il ne dit pas au gars, écoute, j'ai pas de temps, mon gars, j'ai le métro à prendre, j'ai le RER. Non, il s'arrête, il prend le temps d'écouter. Et Jean-Pierre, quand il est parti parfois avec son agenda, sa semaine bien réglée, je reconnais, je ne sais pas bien, mais parfois je reçois des coups de fil, sur le coup. Des fois, il y a des coups de fil qui durent une heure et ça décale tout. Mais je me dis, Jean-Pierre, qu'est-ce qui est important? Faire le bien que Dieu te dit là, quelque chose de bien à faire, ou avoir à la fin de la journée bien fini de faire tout ton agenda et tes préparations? Et je me dis peut-être aussi que parfois, je dois encore apprendre à me décentrer de moi-même, pour apprendre à me tourner plus vers les autres. Je dois apprendre à me dénombriliser. Je dois apprendre à laisser Jésus avoir la première place dans ma vie, et que ce ne soit pas simplement quelque chose que je chante au culte ou que je fais dans mes prières, mais je dois apprendre qu'est-ce que ça veut dire que Jésus a la première place dans ma vie. Je dois apprendre peut-être à faire tomber, avec l'aide du Saint-Esprit qui nous a été donné, les idoles, qui se trouve dans ma vie, pour apprendre à écouter vraiment ce que le Saint-Esprit me dit, pour avoir, j'ai envie de dire, les yeux de l'Esprit, pour ne pas devenir quelqu'un qui entend l'Esprit lorsque l'Esprit veut lui dire « Je te bénis Jean-Pierre », et quand l'Esprit lui dit « Mais je te bénirai quand tu auras fait telle action », il dit « Tiens, j'entends plus rien ». Donc j'ai un appareil auditif, j'ai une bonne excuse, mais quand même. Et je crois que je dois encore apprendre à prier. Hein, il y a eu une belle histoire là sur la prière. Mais je dois apprendre à prier pour avoir en moi un profond désir de vivre comme Jésus me l'enseigne sur le sermon, dans le sermon sur la montagne. Et des fois, je me pose des questions. Je suis un homme qui se pose beaucoup de questions tout le temps. Mais finalement, je me dis, ça fait quand même temps que je ne l'ai pas médité, ce sermon. Pourtant, je l'ai enseigné en études, j'ai fait des séries de prêches dessus, mais je me rends compte que là, ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas médité. Et est-ce que ce n'est pas le discours avec un grand D que Jésus a prononcé, ce discours qui nous appelle à vivre cette vie de disciple, pas qui nous dit, vous devez vivre comme ça, mais voilà vers quoi vous devez aspirer, voilà vers quoi vous devez tendre. Et ça fait combien de temps que chacun d'entre nous, là, combien de temps qu'on n'a pas juste médité sur la vie de Jésus? Vous savez, dans notre monde évangélique, hein, c'est une chose qui est assez claire. Jésus est né d'une vierge et Jésus est mort sur la croix. Et on a l'impression qu'entre les deux, Jésus n'a pas fait grand-chose. J'ai dû faire la recension d'un livre pour un travail avec France Évangélisation. Le titre du livre, c'était « Une vie centrée sur la croix ». Une seule allusion à une parole de Jésus dans le livre. Une seule allusion. Franchement, j'ai un peu été critique envers ce livre, quoi dire. Ben, c'est pas terrible, une vie centrée sur la croix, pas une parole de Jésus prononcée. Alors que moi, on m'aurait dit de faire ça, la première chose que j'aurais fait, j'aurais pris les paroles quand Jésus dit « Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, porte sa croix et me suivre » et dit « Voilà ». Bon, dans le milieu que je suis à France Évangélisation, centré calviniste et tout, je suis le seul anabaptiste hein, qui se défend avec sa petite théologie. Et j'espère que nous, on n'a pas remplacé la vie de Jésus par des doctrines et des connaissances, et que Jésus est vraiment vivant et que c'est vraiment notre modèle. L'important en tant que chrétien, c'est pas d'avoir les meilleures doctrines, mais c'est d'avoir une relation de plus en plus profonde avec celui qui est notre seul sauveur et qui voudrait vraiment être notre Seigneur. Alors l'apôtre Paul, lui, a dû bien se battre avec des églises, hein, justement. Lui, il y avait des faux docteurs qui rentraient, qui voulaient détourner les gens, comme il le dit, de la croix de Christ pour les remettre sous la loi, tout ça. Vous vous rappelez peut-être, à la dernière prédication, il avait parlé de partager les fardeaux les uns les autres, hein, de vivre une vie vraiment d'église, de communion et tout. Et là, on arrive donc vers la fin de sa lettre, au chapitre 6. On lira les versets 6 à 10. Donc Galates chapitre 6, versets 6 à 10. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa propre nature récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'Esprit récoltera de l'Esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Voilà, donc après nous avoir recommandé à porter les fardeaux les uns des autres dans l'Église, en nous disant qu'en faisant ça, nous accomplirons la loi de Christ, maintenant l'apôtre Paul va donner deux recommandations. La première, c'est de soutenir donc les enseignants, et la deuxième, de ne pas se moquer de Dieu. Et au centre de ce petit discours, il y a quelque chose que j'ai appelé la loi des semailles. Alors la première recommandation, verset 6, le soutien matériel aux enseignants. Et pour mieux comprendre la pensée de l'apôtre Paul, je vous rappelle deux de ses phrases, une dans la lettre aux Corinthiens. Il dit « Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, Est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels ? Et aux Romains, en parlant des églises, il dira, elles l'ont bien voulu, elles leur le devaient bien, car si les non-juifs ont eu part aux avantages spirituels des juifs, ils doivent aussi les assister dans leurs besoins matériels. Dans cette recommandation à soutenir matériellement les enseignants, ben je vois deux choses. La première, c'est le respect de l'apôtre pour ce ministère d'enseignant, de prédication, et c'est une manière à lui de montrer l'importance de ce travail dans l'Église, hein, l'importance du travail que ça demande en travail, mais aussi l'importance qu'une doctrine saine soit transmise. Je vous rappelle qu'au moment-là, on n'a pas le Nouveau Testament et que l'enseignement pendant la première génération était transmis d'une manière aussi orale, hein, et ils n'avaient que les écrits de l'Ancien Testament. Donc, certains disent que ça demandait vraiment du travail que de transmettre des enseignements qui étaient justes. Et l'apôtre Paul, il est bien conscient de ce travail qu'accomplissent ses enseignants, donc de l'importance de l'enseignement, surtout aussi avec tous ces faux docteurs qui passent dans les églises pour attirer les églises loin de la vérité et pour devenir eux-mêmes au centre. Et l'apôtre Paul dira qu'en fait, ces gens-là, ils travaillent juste pour leur propre gloire. Ils ont donc une responsabilité importante, et je vous rappelle que c'est l'enseignement qui est transmis dans une église qui va donner la direction à l'église. Et particulièrement quand on est dans une église pionnière, on travaille à implanter une église, les premiers enseignements que vont entendre les gens vont leur donner une orientation dans leur vie chrétienne. Et là, la deuxième chose que je vois, c'est une sorte de partage entre celui qui dispense l'enseignement et celui qui reçoit. Et cela paraît tout à fait normal à l'apôtre, lui qui donne de la nourriture spirituelle, de profiter des biens matériels des gens. Quoique dans son ministère, un maximum de fois quand ça sera possible, il travaillera de ses mains puisqu'il était faiseur de tentes. Dans l'histoire de l'Église naissante, rapidement, presque du temps de l'apôtre Paul, il a fallu mettre des règles en place. Parce que les gens s'appuyaient là-dessus en disant « Nous, on vient apporter l'enseignement, donc vous devez partager vos biens matériels. » Mais beaucoup de faux prophètes profitaient de cela. Et dans un livre qu'on appelle la Didaké, qui a manqué de rentrer dans le canon d'écriture, ils avaient établi des règles. Donc, les faux prophètes, quand ils arrivaient, ils donnaient un enseignement, ils disaient « Le Seigneur me dit qu'il faut maintenant dresser une table et tout. » C'était dans le but de manger. Et donc j'avais terminé que celui qui disait une telle parole ne devait pas participer au repas. Vous voyez, c'était des choses, vraiment. En tout cas, dans ces paroles aussi, on peut voir que l'apôtre Paul montre si des gens viennent vous donner un enseignement, qu'ils ont passé du temps, qu'ils viennent pour vous nourrir, ils n'ont peut-être pas forcément non plus le temps de travailler. Parce que du temps de l'apôtre Paul, quand on se déplace à pied. Et les gens qui l'envoyaient dans les églises, qui devaient préparer des choses pour apporter à l'église, quand ils faisaient des voyages, ils n'avaient pas le temps en même temps d'aller travailler pour se nourrir. Donc il y avait vraiment, j'insiste, cette reconnaissance sur le ministère. Mais vous savez aussi que les gens qui enseignaient tout, ils devaient dire de qui ils tenaient l'enseignement. Donc il y avait une sorte de tradition. Des fois ça nous gêne un petit peu à cause de ce qu'on a vu dans l'église catholique, mais enfin, il y avait une sorte de tradition, toi tu as été enseigné par Phil et par Timothée qui avait lui-même été enseigné par Paul. Vous voyez, il fallait dire l'origine de son renseignement parce qu'on n'avait pas le Nouveau Testament comme aujourd'hui pour pouvoir lire et, entre guillemets, contrôler ce qui était dit. Pour l'apôtre, c'est clair, ceux qui sont appelés à prêcher l'Évangile doivent vivre de l'Évangile. Ça peut aussi nous faire réfléchir sur notre manière de gérer les biens que le Seigneur nous confie. Et si on ne le fait pas déjà, peut-être à soutenir donc des personnes sur le champ missionnaire. Je ne vous parle pas pour moi, évidemment. Mais en tout cas, je crois que vous êtes tous assez mûrs dans la foi pour soutenir des gens Et avouons qu'il y a de la joie à soutenir des gens qui travaillent peut-être en Afrique, en, je ne sais pas dans quel pays, en se disant, ben moi je suis ici, je ne peux peut-être pas être missionnaire, mais je peux soutenir quelqu'un qui travaille, et comme ça, ben, je participe à son travail. Et la deuxième recommandation est de ne pas se moquer de Dieu. Et cela sonne quand même comme un avertissement. Il ne dit pas, on ne se moque pas des serviteurs. Non, non, on ne se moque pas de Dieu. Et comment se moque-t-on de Dieu dans le contexte? C'est peut-être justement en méprisant les serviteurs de Dieu. Hein, comme on disait correctement dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul n'était toujours pas spécialement bien accueilli là où il arrivait. Des gens comme Timothée devaient se battre parce qu'il était jeune et tout, et les gens, nous qui nous entraînent, là, mais c'est encore un genou, et l'apôtre Paul dira, mais que personne ne méprise ta jeunesse, et sois assuré, tu donnes un enseignement, t'es envoyé par Dieu, et dans ces deux lettres, on voit qu'il doit toujours encourager, stimuler Timothée, parce que parfois il était déstabilisé. Et ici, je pense que l'apôtre Paul dénonce le côté un peu égoïste de penser qu'à soi, de garder ses biens pour soi et de ne pas avoir cette ouverture du partage. Un auteur assez connu qui s'appelle C.S. Lewis a dit « Tout ce qui n'est pas éternel est sans valeur pour l'éternité. » On pourrait dire « Tout ce que je mets dans mon coffre-fort jusqu'à ma mort pour partir avec dans mon cercueil, ça ne sera pas éternel, mais tout ce que j'aurai investi pour faire avancer le royaume, ça, je le retrouverai dans l'éternité, parce que, pour paraphraser ce que dit Jésus, j'aurai investi dans la bonne banque. » N'oublions pas que, au jour de la récolte, nous récolterons, mais vous faites tous du jardin, presque tous. Vous avez remarqué, on ne récolte que si on a semé. Hein. C'est une loi naturelle. Mais c'est aussi une loi spirituelle. Et Paul parle de ce que j'appelle la loi des semailles. C'est un des enseignements de cette loi, c'est que tout ce que nous pouvons semer portera un jour du fruit. Même s'il faut être patient comme cette sœur qui priait et qui priait, qui voyait rien, un jour, ça portera du fruit. Et quel encouragement d'avoir une pleine certitude en nous qu'un jour, il y aura une récolte. Si vous avez lu ma lettre de nouvelles, je ne sais plus comment j'ai marqué la phrase, mais j'ai voulu dire que quand on sème, on ne voit pas toujours les fruits, mais on sait qu'un jour, on les verra. C'est ce qui nous donne aussi de persévérer. Hein, quand je regarde des fois, franchement, je crois que je peux parler je ne vais pas dire un mensonge, mais bien des dizaines de personnes à qui j'ai annoncé l'évangile et qui sont dans la nature, et que parfois je me pose la question, mais pourquoi j'ai investi tant d'heures et tant de kilomètres et tant de préparation, et tant, parce qu'il n'y a pas que l'étude, en général il y a tout ce qui va autour, et puis pour rien j'ai l'impression, il dit pour rien, hein. Mais après je vais me revenir au texte biblique, non Jean-Pierre, le travail que tu as fait, ce que tu as semé, c'est pas en vain, tu ne comprends pas là, tu ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de fruit, mais au jour du jugement, eh ben, je comprendrai peut-être ces choses. Et ce qu'on sème quand même, c'est des choses qui porteront des fruits pour l'éternité. C'est pas bien de se dire ça. Hein, de rapprocher cette vie, notre vie avec l'éternité, et pas de vivre ici égoïstement, en disant après, en plus, il y aura le ciel, c'est vraiment formidable, mais qu'est-ce que j'amènerai avec moi au ciel? Au psaume 126, il est dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie en portant leur gerbe. » Un paysan qui sème du blé, jusqu'à preuve du contraire, il récolte du blé. Et s'il sème de l'ivraie, il va récolter de l'ivraie. Chaque semence donne une récolte qui lui est propre. Et si on sème du blé, on ne peut pas récupérer de l'ivraie. Et si on sème de l'ivraie, on ne récolte pas du blé. Et l'abondance de la récolte va dépendre en grande partie de ce que j'ai semé. C'est ce que Paul dira aux Corinthiens. Celui qui sème peu récolte peu, celui qui sèmera abondamment récoltera abondamment. Alors je me suis parfois posé la question, depuis le temps que je suis dans le ministère, que j'ai travaillé dans plusieurs églises, je travaille dans différents domaines et tout. Mais si je pars de l'église avec un grand E, je me dis, qu'est-ce que j'ai semé dans l'église ? qu'est-ce que j'ai semé dans toutes les églises que je suis passé, qu'est-ce que j'ai semé dans la ville où j'habite depuis si longtemps, dans mon quartier, qu'est-ce que j'ai semé quand je travaillais, qu'est-ce que j'ai semé dans le cœur de mes amis, de ma famille. Je me pose la question, qu'est-ce que j'ai semé? J'ai fait plusieurs enterrements et quand il y a un enterrement comme ça, le dernier que j'ai fait d'une dame, sa fille est venue, bon, sa fille de soixantaine d'années, et puis elle a fait, alors notre maman a fait ceci, a fait cela, tout ça. Et je me suis dit, j'ai pas reconnu cette dame, c'était une dame âgée. Souvent quand on enterre des gens âgés, il y a moins de monde à l'enterrement. Mais là, dans un village qui a 47 habitants dans le village, et à l'enterrement, il y a des gens qui sont venus depuis Paris. J'ai vu ça, moi je pensais enterrer la personne devant 20 personnes, je pensais après téléphoner à Daniel Muller, il dit la prochaine fois ton enterrement tu le feras là, parce que... Et quand je suis arrivé, il y avait 150 personnes, l'église était pleine, ils avaient mis des haut-parleurs dehors et tout. Je me dis, cette femme, je ne la connais pas plus que ça, mais elle a dû quand même semer des choses pour que des gens fassent autant de trajets pour venir et qu'il y ait autant de monde dans ce petit village. Une question que je me pose, c'est quand je vais être enterré, qu'est-ce que les gens diront de Jean-Pierre? Qu'est-ce que j'aurais laissé derrière moi? Ce que j'aurais semé, qu'est-ce qu'on dira de Jean-Pierre à l'enterrement? À Jean-Pierre, tu avais toujours une bonne blague à dire, ou est-ce que vous aurez autre chose à dire? Enfin, j'espère que vous m'enterrerez pas. Mais... C'est vrai que je pense qu'on a tous le désir de semer de bonnes choses, qui puisse être utile à l'Église, qui fasse surtout avancer le royaume de Dieu. Et peut-être qu'on sème plus que ce que l'on pense par simplement notre manière de vivre. C'est évident que notre exemple, c'est Jésus. Jésus, dans l'évangile de Jean, qui va laver les pieds de ses disciples, et là, Jean dit que ce moment-là, il a mis le comble à son amour. Cette action qui a duré, je ne sais pas, Linda Hoyer, elle dit dans son livre, finalement, il y avait 24 pieds à laver, ça a dû prendre du temps. Je sais pas, ça a pris trois quarts d'heure, une heure, franchement, je n'ai pas trop d'idées. Il va entendre le bruit de l'eau, tout ça, d'être dans le silence, un silence assez gêné. Mais ça, cette heure qu'ils ont vécue, alors Jésus leur lavait les pieds, je crois que c'est toute leur vie, là, qu'on en tirait des bénéfices, et Jésus a semé quelque chose de profond. Il y a dû avoir un changement de mentalité. Eux qui cherchaient à savoir qui sera le premier ministre quand Jésus va régner, ben, ils ont appris que non, tu vas défaire ton habit d'orgueil et de je me la pète et tu vas revêtir un habit d'humilité et tu vas être rempli d'amour. Et quand je vois Jésus sur la croix, qui va demander le pardon à ceux qui sont en train de crucifier, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Combien de temps il m'a fallu pour dire cette parole? 3 secondes, 4 secondes? Vous avez vu, 2000 ans après, on en parle encore, on écrit dessus, on cherche à comprendre. Et cette parole a marqué la vie de combien de personnes? Maintenant, semer l'amour, c'est pas une chose toujours facile. Et on a bien besoin du Saint-Esprit pour qu'il élargisse notre cœur. C'est toujours facile de semer de l'amour avec les gens qu'on aime, qui nous ressemblent, qui nous apprécient. Après, il y en a d'autres qui nous sanctifient par leur vie. Et parfois, toi, oui, c'est un peu plus difficile de les aimer. Hein, vous croyez qu'on vous aimez les gens? C'est super. Hein, moi, je vous promets très sincèrement, hein, quand on avait à l'église de Baccarat des conflits, ben, j'étais dans des situations où je voyais que finalement, eh ben, moi, le petit cœur de Jean-Pierre n'est pas si large que ça. Ma capacité à pardonner n'est pas si rapide que ça. Et parfois, j'avais plutôt envie de rentrer dans l'art des autres plutôt que de dire, on va dialoguer, on va marcher sur le chemin du pardon. Hein. Et Dieu nous met dans des situations, pas pour nous écraser, mais pour qu'on voie qui on est, pour qu'on voie encore tout le chemin qu'on a à faire et combien on a besoin dans nos vies de l'œuvre de la grâce pour pouvoir aimer, pour pouvoir vraiment faire du bien. Quand Jésus dit « bénissez vos ennemis », on peut le dire dans la prière « bénissez les ennemis », mais quand c'est vous-même qui êtes agressé, de dire « Seigneur, moi il y a un gars qui a piraté ma boîte mail, je préférais que le feu lui descende dessus plutôt que Dieu le bénisse, mais dans ma prière, je suis un bon évangéliste, je dis « bénis-le ». En même temps, s'il se fait gauler et qu'il se prend 50 tôles, ben, il l'aura cherché, il me dit. En conclusion, j'aimerais reprendre des paroles d'apôtre Paul qui dit « Ne négligeons pas de faire le bien. » Et ce n'est pas une option, le verset 9, c'est un commandement. C'est peut-être bête à dire, mais le chrétien est appelé à faire le bien, surtout envers les frères et sœurs de l'Église. Je suis convaincu que tout comme Adam et Ève avaient le choix dans le jardin d'Éden d'obéir ou de ne pas obéir, on a toujours le choix entre choisir le bien ou choisir le mal, semer pour l'esprit ou semer pour la chair. Alors, chers frères et sœurs, si nous vivons par l'esprit, laissons-nous conduire par lui. Ayons confiance dans l'œuvre qu'il veut accomplir dans nos vies. Et devenons, par la puissance de l'esprit qui agit en nous, des semeurs d'amour, de paix. Le jour où nous récolterons des fruits, nous serons heureux d'avoir semé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous invite encore à un petit moment de prière et de silence. Ah, Seigneur Jésus, je veux encore te remercier. Je suis toujours, Seigneur, encouragé de méditer ta parole, même si parfois, à travers elle, tu me reprends, Seigneur. Je veux me rappeler que tu es un Père qui m'aime et que si tu me reprends, c'est pour me faire avancer, c'est pour me montrer les choses qui dans ma vie sont pas toujours à ta gloire et qui doivent changer, Seigneur. Merci que sur la croix, tu as prouvé ton amour envers chacun d'entre nous et qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir l'assurance de notre salut. Merci Seigneur aussi que par ta vie, tu nous as donné un exemple. Merci pour les enseignements que tu nous as donnés parce qu'en les méditant, nous apprenons à te ressembler, Seigneur. Merci encore pour ta bénédiction sur notre petite communauté. Et même si nous sommes petits, Seigneur, tu nous aimes et tu nous utilises pour répandre ta parole. Merci encore pour les bonnes choses que tu prépares pour nous. Et donne-nous aussi, en ta grâce, de marcher dans l'obéissance et d'avoir des vies qui te glorifient, Seigneur. Amen.